Mesdames et messieurs, bienvenue à cette critique de Yugi, capsule express du mois de juin. Je suis Yugi, votre animateur, votre critique personnalisée. Et cette semaine, critique capsule express spéciale jeux vidéo. Je vous parle cette semaine du très magnifique jeu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Mais avant tout, la routine habituelle, vous êtes sur une plateforme numérique présentement, Spotify, Apple Pod, Google Pod, Balado Québec, tout autre type de plateforme où vous nous avez trouvé et où vous nous écoutez présentement. Il y a un petit bouton qui s'appelle télécharger, il y a un petit bouton qui s'appelle abonner, il y a des boutons qui s'appellent note d'étoile. Cliquez sur un de ceux-là, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup. Que ce soit pour apparaître plus fréquemment dans les barres de recherche lorsque les gens cherchent quoi écouter comme podcast ou tout simplement pour nous aider à aller chercher un plus grand auditoire. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de le faire si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, merci de l'avoir fait si c'est déjà fait. On a également une page Facebook du même nom que notre podcast, donc La Critique de Yugi. Allez faire un petit tour sur Facebook, faites une petite recherche sur La Critique de Yugi. Likez notre page, abonnez-vous à notre page, partagez notre page. C'est une excellente façon de nous aider à aller chercher plus d'auditoires. Donc, merci beaucoup de le faire. Et on en profite également sur cette page-là pour vous indiquer lorsque les épisodes sortent ou qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir pour la critique de Yugi. Je disais donc, cette semaine, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, disponible sur la Nintendo Switch. Développé et publié par Nintendo. Bien évidemment, ça fait partie de la franchise de Zelda. On a fait un spécial Zelda qu'on a mis en ligne le 1er mai, justement en l'honneur de ce jeu qui est sorti le 12 mai dernier. Et nous sommes présentement le 7 juin. Et bien, je n'ai pas encore terminé le jeu. Malheureusement, il m'en reste encore beaucoup à faire. C'est un très long jeu. Ceux qui ont joué à Breath of the Wild, vous le savez, Breath of the Wild avait une durée totale en faisant tout, absolument tout de 190 heures. Donc, Tears of the Kingdom, on a un total de 207 heures à peu près pour absolument tout faire. Si vous voulez juste faire l'histoire principale, c'est au moins 56 heures. Si vous ajoutez à ça toutes les side stories, toutes les side adventures, on peut monter à 92 heures. Donc faites une moyenne à peu près, si vous faites juste ça, d'à peu près 83 heures. Et si vous voulez vraiment tout trouver, c'est un gros total de 207 heures. Quelle est l'histoire de Tears of the Kingdom? Donc c'est la suite de Breath of the Wild, jeu qui est sorti sur la Switch, je crois, en 2017. Nous sommes donc quelques années plus tard, c'est pas vraiment précisé combien d'années plus tard, mais on se rend compte au cours du jeu que c'est effectivement quelques années plus tard. On fait mention de ce qui s'est passé dans Breath of the Wild à certaines occasions. On voit que certains des villages qu'on a vus dans Breath of the Wild ont grossi un peu, ont évolué. Il y a des settlements, des petits lieux de rencontre qui sont ajoutés également. Les endroits qui étaient ravagés par les Guardians, certains endroits ont été, la reconstruction est commencée. La ville de Castletown, la ville d'Hyrule, est accessible, encore détruite, mais beaucoup plus facile d'accès, avec une nouvelle petite communauté qui s'est créée à son entrée. Donc c'est ça, on est quelques années plus tard, le jeu commence et je ne divulgage absolument rien parce que c'est tout montré dans le trailer principal du jeu que plusieurs personnes ont vu. On commence avec Zelda, on est dans les souterrains du château d'Hyrule. On explore, Zelda se rend compte qu'elle avait jamais vu justement ces passages secrets qui amènent en dessous du château. Et en descendant, on tombe face à face avec un être momifié qui est retenu par un bras magique. Le bras magique cesse de fonctionner. La momie se réveille. Envoie une genre de substance rouge pour attaquer Link. Link perd à ce moment-là tous les cœurs qu'il a collectés dans Breath of the Wild, ainsi que tout le stamina qu'il avait collecté. On retombe à 3 cœurs, on retombe avec un petit cercle de stamina. Son bras est excessivement très magané. La Master Sword est détruite. Et suite à ça, ben, l'être momifié fait soulever le château dans les airs. Zelda tombe dans le vide. Elle disparaît dans un jet de lumière. Au même moment, des ruines tombent du ciel sur le royaume d'Hyrule. Et Link, très magané, tombe évanoui, se réveille un peu plus tard sur une des îles flottantes qui apparemment flottait depuis des millénaires au-dessus du royaume d'Hyrule, ce qui fait un très gros clin d'œil à Skyward Sword. On en avait déjà parlé lors du spécial Zelda. Je savais qu'il allait avoir un lien avec Skyward Sword. Il n'est pas explicitement mentionné, mais je pense que tout fan de la série Zelda va faire les mêmes liens que nous, surtout avec l'un des nouveaux personnages qui fait son apparition, qui est un très gros clin d'œil à Ocarina of Time. Donc voilà, Link se réveille sur une île flottante et ses aventures commencent. Il doit tout recommencer à collecter ses cœurs et son stamina, et il doit surtout découvrir qu'est-ce qui vient juste de se passer, qui était cette momie, où est rendue Zelda, d'où sortent ces îles flottantes-là, pourquoi c'est rempli de ruines soudaines dans le monde d'Hyrule, et ses aventures commencent ainsi. Un des éléments de Breath of the Wild qui a complètement disparu, c'est les ruines des Shekas. Donc toutes les shrines qu'on a faites dans Breath of the Wild, qui appartenaient aux Shekas, les Divine Beasts qu'on a libérés dans Breath of the Wild, ben, pouf, ils ont disparu. Il n'y a plus aucune trace. Et malheureusement, j'arrive à la fin du jeu, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il n'y a aucune mention nulle part de qu'est-ce qui est arrivé à ces shrines Sheka-là, autour Sheka, à toute la technologie, c'est disparu. Les Sheka sont encore là, sont encore présents dans la ville de Kakariko, mais les ruines ont disparu. Ils ont été remplacés par des shrines de Zonai. Donc, on avait beaucoup parlé dans Breath of the Wild des Zonai, qui semblaient être une race très ancestrale, très vieille, qui a vécu dans le royaume d'Hyrule. On voyait beaucoup de ruines dans Breath of the Wild. Et bien là, les Zonai font partie intégrante de Tears of the Kingdom. Je ne veux pas rien divulgâcher parce que je veux vraiment vous laisser le plaisir de découvrir tout ça. Mais tout ça pour dire que les shrines ont été remplacés par des shrines Zonai. Donc on a encore les shrines qui reviennent. Ce qui m'amène à dire les éléments de Breath of the Wild qui reviennent dans Tears of the Kingdom, parce que c'est très similaire à Breath of the Wild. Le gameplay est quasiment un copier-coller. J'ai un de mes amis qui a mentionné que Tears of the Kingdom, que Breath of the Wild lui semblait être le jeu bêta et que Tears of the Kingdom est le jeu réel. Et ce n'est pas faux parce que le jeu a vraiment été très peaufiné, très amélioré par rapport à Breath of the Wild. Donc si vous pensiez que Breath of the Wild est un jeu fantastique, bien construit et complet, ben, Tears of Kingdom prend la barre très haute que Breath of the Wild a mis, puis il y a mon encore. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'éléments très similaires qui reviennent. Donc le gameplay est le même. C'est le même monde, c'est le même décor, c'est les mêmes principes. Donc quand tu escalades puis qu'il mouille, tu glisses. Ta barre de stamina est nécessaire pour courir, nager, grimper, pour faire d'autres actions également. Le principe des armes qui brisent, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, le principe revient. Les arcs, les boucliers également, tout ça se brise. Les shrines, justement, je les mentionnais, ils reviennent, mais en plus grande quantité. Je pense qu'on en avait de mémoire 128 ou 124. 124, 128 dans Breath of the Wild. On en a présentement dans Tears of the Kingdom un total de 152 shrines. Les tours Sheka n'existent plus, mais on a d'autres tours, ce qui appelle les Skyview Tower, donc qui nous permettent de, encore une fois, redébloquer la map au grand complet. Les villages et les achats reviennent également. Donc ça, c'est des éléments qui reviennent. Les chevaux, on peut encore reprendre des chevaux et les chevaux aussi, et les amener dans nos stables pour les garder. Il y a vraiment... C'est rempli d'éléments similaires. Même au niveau du gameplay des boutons, c'est les mêmes commandes à une commande près. La commande des runes qu'on utilisait dans Breath of the Wild a été légèrement changée parce qu'ils ont rajouté une commande supplémentaire. Les monstres, la majorité des monstres revient, donc les Bokoblins, les Lizalfos, les Moblins, les Wiz, les Lynel, les Inox, les Talon. Tout ça, pas les Talons, mais les Talus, tout ça revient, ainsi que les Keys, les Fire Keys, les Ice Keys et toutes les à côté. Les Octorok, tous ces monstres-là reviennent. Cependant, ils ont ajouté énormément d'éléments. Premier élément ajouté, c'est non seulement on a la méga grosse map du monde d'Hyrule, mais on a également la même map pour les îles flottantes. Donc on a une map de la même grandeur mais pour les îles flottantes, et on a le miroir du monde d'Hyrule dans les souterrains, ce qu'ils appellent les Death. Donc moi je l'appelle le Dark World parce que c'est un méga clin d'œil à Link to the Past. Le Dark World est un reflet du monde d'Hyrule, donc les shrines dans les profondeurs sont exactement à la même place, mais c'est pas des shrines, c'est des genres de lumières qui éclairent les profondeurs parce qu'il fait excessivement très très noir dans le Dark World. On ne voit que dalle, et il faut trouver certaines plantes qu'on peut lancer pour qui font de la lumière lorsqu'ils touchent le sol. Donc c'est avec ça qu'on navigue, mais sachant que c'est le monde miroir du monde d'Hyrule aide vraiment beaucoup à la navigation. Donc les rivières deviennent des montagnes, les montagnes deviennent des cratères. Ça l'aide énormément à la navigation, donc on peut tout le temps comparer avec la map principale et la map d'en dessous pour naviguer plus facilement. Donc ça, c'est une méga grosse addition qu'ils ont faite, donc deux maps supplémentaires, ce qui augmente encore plus l'exploration. Beaucoup de monstres nouveaux également, donc exemple, on a avec le Talus, le Battle Talus, donc c'est exactement le même monstre de pierre géant, mais en plus avec une genre de base de bokoblins sur le dessus. Donc non seulement il faut que tu te battes contre le Talus, mais il faut que tu te battes contre les bokoblins qui sont sur la base également. Il y a également... quel autre monstre nouveau qu'il y a qui me vienne pas en tête? Moses de Moses. J'ai-tu ici? Je pense que j'en ai ici des monstres. Il y a des dragons, en effet. Il y a des dragons qui font leur apparition, qui est un gros clin d'œil au premier jeu de Zelda où on avait un dragon à trois têtes. On a des, ce qu'on appelle des Frogs, qui ressemblent beaucoup à les Dodongo dans Ocarina of Time et dans d'autres jeux également, mais vraiment sur une mesure beaucoup plus gigantesque. On a le Molduga qui revient bien évidemment, le Stalnox qui revient, les Yiga qui reviennent également. On a des nouveaux gardiens, qui sont des petits êtres robotiques qui protègent les ruines Zonai, mais qui attaquent tout ce qui bouge, tout ce qu'ils considèrent comme une menace. Et bien évidemment, Link est considéré comme une menace. Donc vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux monstres. Ils ont également amené le concept, des nouveaux concepts. Donc toutes nos runes qu'on avait dans Breath of the Wild n'existent plus. On a donc maintenant une rune pour remonter le temps. Donc exemple, un ennemi vous tire une pierre, vous pouvez utiliser cette rune-là pour stopper la pierre et la faire reculer, donc revenir vers le monstre. Et là, ben, la pierre frappe le monstre au lieu de te frapper toi. Et cet élément-là est utilisé pour plein d'autres choses également. On a la rune de construction qui vous permet de construire des choses, construire des bolides, construire des armes. Vous pouvez matcher une arme avec une autre pour faire une double arme. Les possibilités sont gigantesques et vous n'avez qu'à aller faire un petit tour sur Google, faire des petites recherches. Les joueurs sont débiles mentales, ils créent des choses incroyables. Il y a des joueurs qui ont créé des hélicoptères, des avions. Il y a un joueur qui a recréé le bolide de course dans Star Wars. Il y a quelqu'un qui vient de recréer une X-Wing dans Star Wars. le monde est complètement débile dans ce jeu en matière de création, mais le joueur est libre de créer ce qu'il veut. Bien évidemment, ça l'amène à des constructions un peu bébé cacapoël. Donc, il y a des gens, évidemment, qui ont construit des méga gros robots avec un certain engin entre les deux jambes qui tire des roquettes. Et ils mettent ça au grand jour sur YouTube en trouvant ça très, très drôle. Donc, bien évidemment, en laissant libre choix aux joueurs de créer ce qu'ils veulent, ben, t'amènes des situations ridicules comme ça. Mais le principe est quand même super le fun, super utile. Ça rajoute tellement au gameplay du jeu. Autre élément qu'ils ont créé, justement, un raccourci. Donc, tes créations sont enregistrées dans le système. Et à l'appui d'un simple bouton, tu peux refaire la construction que tu as faite il y a 3-4 jours. Donc, ça aussi, c'est super le fun. Il y a justement le principe de match. Une rune qui te permet de coller une arme à une autre arme pour faire une plus forte arme. On peut faire ça avec nos armes d'attaque et avec nos boucliers. Il y a moyen également d'attacher sur nos armes tout plein d'items. Donc tu pourrais avoir une épée et décider d'y mettre un morceau de diamant au bout pour créer une arme plus forte. Tu peux faire ça avec la quasi-totalité des items disponibles dans le jeu. Et non seulement il y a les mêmes items qu'on avait dans Breath of the Wild, mais il y en a quasiment deux fois plus. Ils ont vraiment créé tout plein de nouveaux items accessibles et utiles à plein de choses. Ce qui rajoute encore plus de jouabilité, plus de gameplay, plus de possibilités. Le pouvoir des Divine Beasts a été changé pour un autre pouvoir que, encore une fois, je ne divulgacherai pas, mais on a encore la possibilité d'avoir un certain pouvoir additionnel avec nous qui nous aide beaucoup dans nos quêtes. Ils ont modifié le fait d'enlever les runes, fait en sorte que tu n'as plus de bombes, mais ils ont ramené les Flower Bombs, qu'on avait beaucoup dans d'autres jeux, incluant Ocarina of Time, et tu peux utiliser ces Flower Bombs-là comme des bombes naturellement. Ils ont éliminé les Fire Arrows, donc les flèches de feu, les flèches de glace, les flèches d'électricité. Par contre, tu peux attacher quelque chose de feu à ta flèche pour créer une flèche de feu. Même principe pour la glace, même principe pour l'électricité. Tu peux même prendre la gelée de Chouchou, donc un Fire Chouchou. Tu peux prendre sa gelée, la mettre sur ta flèche et créer une Fire Arrow. Donc ça les a pas éliminés, ça a juste modifié la façon qu'on les utilise. Et il y a un paquet de choses comme ça qui ont fait dans le jeu. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. C'est pour ça qu'on disait qu'on a vraiment l'impression que Breath of the Wild était le bêta, c'était le jeu test. Et tous les commentaires constructifs de tous les joueurs au cours des dernières années ont fait que les concepteurs ont amélioré le jeu, même si on pensait que c'était impossible de le rendre encore plus hot. Ils ont réussi cette tâche. Le jeu est tout à fait sublime, c'est le même type de graphique qu'on avait dans Breath of the Wild. Si vous n'aimez pas ce type de graphique-là, c'est votre droit. Mais je vous dirais, ne vous empêchez pas de jouer parce que vous trouvez les graphiques boboches. Le jeu est tellement le fun. La musique est encore une fois sublime. Donc, comme tout jeu de Zelda, la musique est entraînante, elle est captivante, elle est belle. Les personnages sont sublimes. Beaucoup de personnages de Breath of the Wild refont leur apparition. En fait, quasiment la totalité des personnages de Breath of the Wild reviennent dans Tears of the Kingdom. Donc, on retrouve Sidon, on retrouve Yonobu. On retrouve Riju, on retrouve Teba avec son fils Tulin, Impa, Pura, tous ces personnages-là sont de retour. Je vous dirais quasiment que le seul personnage manquant, c'est Cass, le perroquet qui joue de l'accordéon. Complètement missing in action dans Tears of the Kingdom. On ne sait pas où il est. Pourtant, dans le village d'Erito, on voit sa femme et sa fille. Mais Cass, en tant que tel, est disparu. On ne sait pas où il est. Il y a des rumeurs qui parlent que peut-être dans un prochain DLC, probablement qu'on ramènerait Cass à ce moment-là, parce que c'est bizarre que ce soit le seul et unique personnage qui ne revienne pas dans ce jeu. Je veux m'arrêter là, je pourrais encore en parler, puis en parler, puis en parler. J'adore ce jeu. Je crois que je suis présentement, je crois avoir déjà franchi la barre des 100 heures. Je dois approcher le 150 heures également. C'est énorme comme jeu, mais tellement plaisant. Surtout si vous êtes un amateur de Zelda. Il y a tellement, encore une fois, de références avec tout ce qui s'est passé dans les autres jeux. Que ce soit le nom de personnage, le nom d'un endroit ou un événement qui s'est passé dans un autre jeu. Énormément, encore une fois, de références. Donc, pour un fan de Zelda, c'est un vrai bonbon. Au niveau des notes, le site de IGN, que je prends pour toute critique de jeu, lui a donné un 10 sur 10. Il lui a donné une note parfaite. IGN considère ce jeu comme un masterpiece. La moyenne des usagers lui ont donné la note de 9.7. Donc, moyenne de 98% entre la note IGN et la note du public. Ce n'est que d'excellentes notes. Et je me dois de lui donner un 10 sur 10 également. Malgré les nombreuses heures que j'ai mis sur ce jeu, je n'ai pas encore trouvé de points négatifs. Et s'il y en a, c'est vraiment tellement minime comparé à l'ensemble du jeu que ça ne mérite même pas d'être mentionné. Donc, la note de la critique de Yugi pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, disponible sur Nintendo Switch, est un 10 sur 10. Je vous le recommande chaudement. C'est un jeu fantastique. C'est un action RPG dans un certain sens. Mais c'est tellement un jeu plaisant. Amusez-vous. Je ne connais pas aucun joueur encore qui joue présentement à ce jeu et qui n'a pas de plaisir. Même les joueurs que je connais qui ont l'habitude de jouer 10, 15, 20 heures et de stanner et de passer à autre chose, jouent encore et n'ont pas l'intention d'arrêter de jouer. C'est vraiment, comme IGN le dit, un masterpiece. J'adore ce jeu. Il vient de tomber dans mon top 3. De mes jeux favoris of all time. Ça vaut l'achat, ça vaut le prix également. Les Amiibo fonctionnent encore, j'ai oublié de le mentionner, si vous avez des Amiibo, ils fonctionnent toujours, et si vous avez des Amiibo de Zelda, ben, ça vous donne encore des cadeaux beaucoup plus précis que si vous avez des Amiibo de d'autres jeux. Exemple, un Amiibo de Mario va vous donner uniquement des ressources, tandis qu'un Amiibo de Zelda va peut-être vous donner une arme, ou un item spécial, ou un morceau d'équipement également. Donc, les Amiibo fonctionnent encore si vous en avez. Donc voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire. En fait, non, c'est pas tout ce que j'ai à dire. Je pourrais en dire encore vraiment très, très, très longtemps. Mais c'est une capsule express. Je veux essayer de garder ça le plus court possible. Donc, Tears of the Kingdom, Zelda, 10 sur 10 sur la Switch. Allez-y, achetez-le, louez-le, empruntez-le, jouez. Ça vaut vraiment la peine. Là-dessus, c'est tout pour cette semaine. Prochaine capsule express, la semaine prochaine, le 14 juin. Probablement présenté par mon collègue Bedu. On s'enligne pour un épisode sur Never Have I Ever, saison 3, saison 4. Je ne suis plus certain, on est rendu à quelle saison, mais on vous en a déjà parlé, on vous a déjà critiqué les autres saisons. Donc, une autre capsule express là-dessus. Il va peut-être vous parler d'autres choses également, il n'était pas certain non plus. Et dernière capsule express du mois de juin sera une surprise, je ne sais pas encore de quoi qu'on va parler, mais il y aura une troisième capsule comme d'habitude. Et 1er juillet. Épisode mensuel, on a enfin trouvé de quoi on voulait vous parler. Ce sera un épisode, j'ai envie de dire, feel good movies, mais ça peut ne pas être un feel good. On veut juste vous parler de bons films qui ont joué à travers le temps, des films que nous, moi, Yugi, Bedu et Maryse, on aime écouter, qu'on a du plaisir à réécouter. Qu'on ne se tanne pas à écouter, que ce soit une comédie, un drame, un film d'action, un film d'horreur, peu importe, des films qu'on aime, qui ont peut-être passé un petit peu en dessous du radar, dont on veut vous parler, on veut vous les présenter, on veut vous initier à ces films-là, si ce n'est pas déjà fait. Donc, c'est ce type d'épisode qu'on aura pour le 1er juillet, j'ai vraiment très très hâte d'enregistrer cet épisode-là et de vous le présenter. D'ici là, ben c'est tout. Portez-vous bien. Profitez de la semaine qui s'en vient. Écoutez des films, écoutez des séries, jouez à des jeux, jouez à Zelda, profitez-en. Et avec tout ça, ben on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule express des critiques de Yugi. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là. À la prochaine!